Parole est l'enfant du voyageur. Je viens de là où l'initiation à l'éloquence se passe autour du doudal, là où les griots détiennent la généalogie de toute une communauté. Et comme le doudal n'est plus, Jado n'est plus, Djéliba n'est plus, moi, le fils de la parole et l'enfant du voyageur, je sais que la parole est un passé, dite on ne peut plus l'effacer.
Pascal Paradou.
Ce fils de la parole, cet enfant du voyageur, vit entre Niamey et Paris, entre la poésie et l'action, et se définit comme griot moderne, poète et slameur. Bonjour Jonel.
Bonjour Pascal Paradou.
Vous préparez actuellement un spectacle pour le Niger, vous travaillez aussi sur un projet avec les handicapés intitulé « À toi la parole », tout en dirigeant le festival Fiche Goni, l'édition 2019 vient de se terminer. On a donc plein de choses à se dire, mais je veux quand même que vous me racontiez d'abord d'où vient ce nom de Jonel, qui est un pseudo.
Ah, d'accord. Alors, Jonel, c'est l'oncle et le neveu. Jonel, c'est un nom qui ne veut rien dire, pratiquement. Enfin, mon oncle s'appelle John et il m'a toujours appelé Cézel. Et il pensait qu'un jour, je l'amènerais au ciel. Et donc, ses amis m'ont surnommé les ailes de John. Donc, El John, El John, El John et un jour, Jonel.
C'est une belle déclaration d'amour.
Ah bah oui.
Depuis 2008 et votre premier album, on vous connaît donc sous ce nom de Jonel. Alors, si on continue les présentations, slameur, on voit bien pourquoi, poète aussi, mais griot moderne. Ça veut dire quoi, griot moderne?
Alors, griot moderne, parce que chez moi, d'abord, on a des griots. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a 2 ans, peut-être moins, qu'on a perdu le dernier griot généalogiste. Donc, pour dire que ces griots-là sont là pour nous rappeler qui nous sommes. Et quand on n'a plus un griot né et initié à la parole, on s'est dit, on perd quelque chose. Et parce que moi, je me dis, je dois prendre cette parole qui est mienne aussi, non seulement pour dire aux uns et aux autres qui ils sont, mais aussi ce qu'ils doivent faire pour le bien de chacun et chacune dans la société. Je me dis que, pourquoi je le dis? Parce que j'ai grandi dans ce village qui est Liboré, qui est à 15 kilomètres de Niamey, qui est aussi le fief des griots. C'est là où Djéliba est passé, son père qui était Badja Banya aussi, et aussi Djado Sékou bien sûr. Et aujourd'hui, on n'a plus ces griots-là autour de nous. Et donc, je me dis aujourd'hui que je suis le fils de la parole. Je suis un griot moderne parce que je me permets de porter ce chapeau.
Donc, les griots modernes 2.0 font des vidéos sur YouTube, des spectacles dans les centres culturels et prennent l'avion.
Exactement.
C'est ça, la modernité.
Exactement.
La porte ne peut s'ouvrir de l'extérieur, mais seulement de l'intérieur. C'est vous qui le dites.
Exactement.
Donc le griot est un peu philosophe.
Alors le griot, il est moderne, il est un peu philosophe, parce que le griot qui nous dit qui nous sommes, ce griot n'invente pas, il ne crée pas. Il se contente de ce qu'il apprend autour du doudal. Et nous autres, on se contente de ce qu'on apprend dans la vie, tous les jours. Et donc, du coup, on peut se permettre de façonner cette parole et de donner une autre dimension à cette parole.
Et du coup, vous vous définissez aussi comme un homme engagé, comme le porte-voix des sans-voix.
Exactement, exactement.
Est-ce que c'est la situation du Niger, qui est un pays qui connaît de nombreuses difficultés, qui ne fait pas forcément partie des pays les plus riches, en termes d'économie en tout cas, est-ce que c'est la situation du Niger qui vous met dans cette position d'être le porte-parole des sans-voix ?
Alors, la situation du Niger, mais aussi ma situation propre à moi, d'abord. Moi, je suis né dans une famille où mon père, il avait 3 femmes. Et mon grand-père, lui, il en avait jusqu'à 7. Et donc, dans cette cour commune, comme je l'ai dit dans mon premier, dans cette cour commune, j'ai vu...
Premier livre et premier spectacle.
Donc, j'ai vu l'injustice, j'ai vu la joie, j'ai vu la tristesse autour de ces femmes et aussi des enfants. Et j'ai vu comment ça se passait. Et j'essayais d'apporter quelque chose, mais je ne pouvais pas parce que je n'étais qu'un gosse dans cette famille élargie. Et aujourd'hui aussi, plus la situation du Niger, où on se retrouve face au mur et on ne sait pas où on va exactement avec tout ce qui se passe autour du Niger aujourd'hui. On a le Mali, la Libye et le Nigeria.
Et vous avez le sentiment d'avoir toute liberté pour créer ? Vous êtes au Niger ?
Alors, ben oui, moi, tout ce qui me vient, je l'écris et je le dis.
Ce n'est pas la vraie dictature, notre inquiétude, mais cette fausse démocratie construite sur l'hypocrisie des dires dictés.
Exactement.
Signé Jonel.
Oui.
C'est assez politique, quand même.
C'est assez politique, exactement. Alors, c'est pour dire aussi que on n'a pas forcément peur de la dictature. Mais on a surtout peur de cette démocratie-là qui est construite vraiment sur l'hypocrisie et des dires, bien sûr, dictés dans nos pays. Et quand on se retrouve dans des situations où on parle de démocratie qui est un pouvoir du peuple, où le peuple ne peut plus s'exprimer, où le peuple est condamné à taire ses émotions... Parce que quand on dit on est emprisonné ou quand on dit on est tué ou plein d'autres choses, je pense qu'on ne peut pas parler de démocratie en ce moment.
Alors vous travaillez, Jonel, à un spectacle intitulé « De toute façon, ils ne sont que pauvres ». Donc un texte existe, un clip aussi, et il faut dire 2-3 choses. Dans ce clip, vous êtes assis sur un canapé un peu défoncé, sur un terrain vague, et j'ai l'impression que vous parodiez un homme politique.
Exactement, exactement.
Bienvenue, monsieur Djambridou, dans notre palais. Comme il est écrit devant notre porte, notre mission est d'enrichir les riches et appauvrir les pauvres, parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. On ne peut en aucun cas permettre à un pauvre de connaître mieux que son destin de pauvre, parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. À la différence de nous autres, leur vie n'est que misère, souffrance et maladie. Pour cela, monsieur Djambridou, on a besoin de tes mains et tes oreilles au service de notre système. On exige que tu côtoies ces pauvres malgré leur manque d'hygiène. Trempe ta main s'il le faut dans leur plat commun. Soutire-nous les meilleurs des renseignements. Puisque notre but est de les maintenir dans une vie sans espoir, du père au fils, de la mère à la fille, dans un perpétuel combat sans fin contre la faim. On aimerait les voir cohabiter avec l'inquiétude et l'incertitude jusqu'à ce qu'ils épousent la frustration et la haine. On souhaite voir ces pauvres se déployer dans la dureté et la chérité de la vie pour survivre, jusqu'à ce qu'ils se rendent enfin compte qu'ils sont obligés d'endurer comme les aînés ou partir, parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. Ils disent que nous avions restauré l'inégalité, l'injustice et la corruption, mais ils n'ont encore rien vu. Bientôt, le mot confiance ne fera plus partie de leur langage. Le rire et la beauté, ils ne le verront que sur nos visages. Tout moyen d'expression, art, médias et presse écrite ne sera plus que souvenir, parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. Ils verront leurs proches périr dans les hôpitaux, personne pour les aider. L'un après l'autre, ils trébucheront face à des épidémies qui ne demandent que simple vaccination, parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres.
Jonel, l'invité aujourd'hui de Deux Vives Voix sur RFI pour évoquer notamment ce spectacle en cours de préparation. De toute façon, ils ne sont que pauvres. C'est presque de la science-fiction ou c'est déjà la réalité que vous décrivez dans ce texte?
Alors, c'est déjà la réalité que je décris dans ce texte. Il faut vivre cette réalité pour comprendre exactement de quoi je parle. Et je suis sûr qu'il y a des milliers de personnes qui m'écoutent en ce moment, qui nous écoutent, qui vivent cette situation.
En tout cas, vous luttez contre l'assignation.
Oui.
Qui peut être valable dans tous les pays d'ailleurs.
Ah ben exactement.
Et puis pauvre de quoi? Riche de quoi?
Exactement. Alors... pauvre de beaucoup de choses. D'abord, de pas pouvoir prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre, parce que on nous empêche de prendre conscience de cela. Et quand on vit dans une misère, et je dis souvent, quand on dort avec des poules, on se réveille avec des plumes. Et quand on dort vraiment avec des poules, on se rend pas compte. Parce qu'on n'a pas les moyens de vivre ailleurs que avec les poules, mais quand on se réveille, on est obligé de se réveiller avec des plumes. Et quand on est dans une situation où on ne peut pas revendiquer ses droits, où on ne peut pas dire ce qu'on pense, où on ne peut même pas espérer ce qui nous revient de droit, je pense qu'en ce moment, on est dans une pauvreté et que je décris, bien sûr, dans ces textes.
Comment vous écrivez, Jonel? Quel est le point de départ? Quand? Où vous écrivez?
Alors, j'écris partout. Alors, d'abord, il faut savoir que je n'écris pas tout de suite. J'ai une idée tout de suite. Je parle avec une personne, il dit une phrase ou un mot, et je dis, mais tiens, c'est intéressant ça. Ou je marche dans la rue, ou ça peut être n'importe où, j'observe une scène et ça me donne une idée et je commence à construire mon texte. Il arrive que je parle avec une personne qui me sort juste une phrase, après il continue de parler, mais moi je suis déjà dans autre chose parce que j'essaye de trouver quelque chose à créer en ce moment.
Mais vous transcrivez ensuite, donc une fois que le texte est à peu près conçu dans votre tête, vous transcrivez sur un calepin. Dans un texte, vous parlez de calepin, c'est un vieux mot, j'avais presque oublié le calepin,
exactement. Oui, toujours.
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 Pas d'ordinateur?
Non, c'est plus tard après.
Encore, il y a plein d'étapes, donc. Et vous, alors, j'allais dire chanter, mais non, vous chantez pas, vous dites. Vous dites en français, ce qu'on a entendu est en français, mais pas seulement.
Pas que, oui.
En combien de langues?
Alors, germain, haoussa, bambara et le djula qui se ressemblent donc dans ces langues.
Et vous êtes slameur, hein, pas rappeur. Quel distinguo vous faites?
Alors. Moi je suis, je dirais bien, je suis slammer parce que on m'a collé bien sûr ce nom après, plus tard, parce que je ne savais pas non plus qu'il y avait un mode d'expression vraiment qui s'appelait slam. Et j'étais beaucoup plus avec des rappeurs, et bien sûr, à l'époque. Et on avait même un groupe de rap et tout. Mais après, quand on m'a dit, tu fais du slam. Alors, je me suis retrouvé à dire « Ok, d'accord », mais pourtant, c'était les mêmes textes que je disais quand je faisais le rap. Alors, pour moi, il n'y a pas une très grande différence entre le rap et le slam. La seule différence que je peux trouver, c'est que on peut dire le texte slam sans se faire accompagner par la musique. Ceci dit, dans le rap aussi, on le retrouve parce que on dit il y a les acapellas et tout ça. Et le rap est beaucoup plus la musique derrière, un rythme qui souvent domine même la voix.
Alors que dans le slam, il y a les mots. Et les mots, c'est pas rien pour vous. Hein. Vous parlez d'amour pour les mots.
Ah ben oui.
Racontez-moi cette histoire d'amour.
Alors. L'amour pour les mots, c'est d'abord connaître les mots, connaître les couleurs des mots. Parce que chez moi, quand on parle, par exemple, de la parole a des couleurs. La parole a des couleurs, la parole a des odeurs et tout ça. Et c'est tellement intéressant de se dire, OK, comment ça se fait que dans d'autres langues, on n'arrive pas à trouver ces couleurs-là?
Mais quelle même est la couleur senteurs. De la parole?
Alors, la couleur a plusieurs paroles. Ça dépend de...
La couleur a plusieurs couleurs.
ça dépend de sur quoi on parle. Chez moi, par exemple, on peut te dire « Asano Kwari ». Donc, voilà, « Asano Gbi ». Donc, sa parole est blanche. Où sa parole est noire, mais pas que, parce qu'il y a la parole blanche, mais il y a la parole qui est blanche comme du lait, comme le lait. Donc il y a la parole miel aussi. Donc il y a toutes ces paroles là, mais qui font que on sait qui est goni, qui n'est pas goni. Le goni c'est celui qui excelle dans la parole, donc il y a l'art de parler. Donc c'est assez intéressant, c'est pourquoi j'ai...
Mais qu'est-ce qui donne la couleur à la parole? Ce sont les mots utilisés ou c'est la manière de le dire?
Ce sont les mots utilisés et la manière de le dire, exactement. Parce que même quand tu as les mots, si tu as
par exemple, si on parle d'amour, c'est une parole de quelle couleur?
Alors si on parle d'amour... on peut l'appeler la parole, ça peut être une parole blanche, comme le lait, par exemple.
Et si on parle de la guerre?
Alors là, ça devient une parole noire ou violent, oui.
Cette histoire des mots, qui est une histoire d'enfance, hein, parce que vous racontez qu'il y avait avec des copains quand vous étiez jeune, vous déclamiez des tirades, vous inventiez des textes dans la rue, que c'était un amour collectif
pour l'amour.
Cette histoire d'amour, cette jeunesse, sont aussi dans un recueil et un spectacle plus ancien que vous aviez évoqué,
ouais.
Et qui s'appelle Cour commune.
Cour commune, oui.
Soyez les bienvenus, ici c'est la cour commune. On vient de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Aujourd'hui, on est entre amis, famille, voisins et cousins. Niamé, la cour commune. Nikankanenijisumaizo, negeyendenemaru. Zamwokanka bonfudanyaga, nongoisamware bonkananyaga. Ici c'est une cour commune. Dans chaque famille, il y a une histoire. Chez moi, il y a 12 enfants. Je connais leur maman parce qu'on est ensemble, mais je ne connais pas leur papa. Niamé, la cour commune. Chez mon voisin, lui, il a 4 femmes et 16 enfants. Mais quand il sort de sa maison, tu l'entends dire « Dieu merci !» T'as l'impression qu'il est en train de fuir sa famille. Ici, c'est une cour commune. Chez ma maman, elle attend encore le retour de mon papa. Mais quel papa ? Un homme qui est parti sous prétexte de la sauver, elle, sa vie et celle de ses enfants. Niamé, la cour commune. Non, nos sœurs, de honte, une fois enceintes, elles osent avorter. Il y en a qui prennent la peine de supporter 9 mois de grossesse. Puis après, on retrouve les enfants emballés, tués, jetés dans des caniveaux. Ici, c'est une cour commune. Nous sommes des jeunes, entre 25 et 35 ans. On vit encore chez papa et maman. On attend la grâce d'Allah ou un visa de USA. Niamé, la cour commune. Non, nos sœurs, comme mariage devient difficile, tu les entends dire « Ah, I want one fun, I do, I get back !» Mais après les jeux de jambes, les katas, les autostops, Mangano, Alpha, Gagananda, ici, c'est une cour commune. Pendant les jours de fête, on s'invite et après les fêtes, on s'invite. Mais si jamais on apprend que chez Ladji, il y a un baptême ou chez Hajia, il y a un mariage, d'abord chez nous, ce jour-là, on ne fait pas la cuisine. Invitation ou pas, 12h pile, on est présent. Niamé, la cour commune.
Niamé, cour commune, titre de ce texte, mais aussi de votre livre, Jonel, publié il y a quelques années. La cour commune, c'est ce que vous racontiez tout à l'heure, c'est le lieu de l'enfance, le lieu de l'éducation, entouré de très nombreuses femmes, ouais. Et dont une tante, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes engagé sur un autre front qui est celui du handicap.
Exactement.
Quel est le rôle de cette fameuse tata, tati, je ne sais pas comment vous dites, dans cet engagement?
Alors, Cette tante s'appelle Geika. Et ça me fait, quand je parle d'elle, j'ai souvent des larmes. Alors, Geika, c'est ma tante et c'est elle qui vient donc juste après, après ma mère. Et c'était son père, bien sûr, qui avait cette femme, qui était mon grand-père. Et Geika, donc, quand elle est née, elle ne pouvait pas parler, mais du tout. Et son père, il était riche, vraiment. Et donc, il a tout fait pour que son enfant aille à l'école, par contre. Mais sauf que, à l'école, ça ne se passait pas parce qu'elle passait son temps dehors, parce qu'on la chassait de l'école et tout ça. Mais son père, il insistait, par contre. Et Geika n'a pas parlé jusqu'à l'âge de 20 ans. Et elle a, quand elle a commencé à parler, elle disait des mots en germain. Elle parlait aussi le djula un peu parce qu'on est resté en Côte d'Ivoire. Mais elle parlait aussi le français, donc quelques mots. Et, mais sauf que pour toute la famille, pour tout le monde d'ailleurs, notre entourage, on liait ça à tout ce qui est mystique. On n'a jamais cherché à savoir ce qu'elle a vraiment et qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter tout ça. Et donc aujourd'hui, non plus d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui elle a pris de l'âge et tout. Et moi, près de Geika, comment elle était traitée d'abord autour de nous et même dans la famille où elle était un peu écartée et tout ça, mais aussi qu'on l'appelait aussi par son handicap et tout ça. Et ça, c'était des choses qui me marquaient beaucoup.
On ne disait pas Geika, on disait la muette.
On disait la muette. Et donc, sauf qu'on ne se rendait pas compte si ça pouvait faire mal à Geika. Et ben, sauf qu'elle ne supportait pas ça. Elle disait non, je m'appelle Geika, mais les gens, il ne continuait pas compte à l'appeler comme ça.
Et donc, à partir de cette histoire, de cette expérience, de cette émotion et de ce nom de Geika, que vous avez décidé donc de lancer une grande opération qui s'appelle «
À toi la parole »,
qui est de donner la parole à des handicapés pour faire prendre conscience à l'ensemble de la société que le handicap n'est qu'un handicap.
Exactement.
Et que les handicapés sont des hommes et des femmes et des hommes, comme vous et moi.
Et moi, exactement.
Et que nous sommes peut-être chacun un peu handicapé quelque part.
Ben oui, exactement.
Et vous avez même fait de cette cause-là un des sujets de votre festival Fichégoni, qui est un festival de slam. Il vient de se terminer. Slam, d'humour et de colloques.
Et de colloques, bien sûr.
Est-ce qu'on peut rire de tout?
Alors, ça dépend de comment on veut rire de tout. Si on trouve les bonnes manières, on peut rire de tout. Mais si on ne trouve pas les mots qu'il faut pour rire, alors on ne peut pas rire de tout.
Rire, c'est bien beau, mais c'est aussi, si je suis bien renseigné, le sujet de la puce.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal.
Vous avez le rire, le rire de quelle couleur vous?
Le rire jaune. Alors bien sûr, quand il s'agit de rire, tout va bien. Mais quand on rit jaune, il s'agit de tout autre chose. Et pour vous en convaincre, eh bien Jean Pruvot va revenir dans quelques instants sur la symbolique de cette couleur très ambivalente. Mais avant, on rigole de bon cœur en écoutant les propositions des CM1 de Carole Rossignon à l'école Forest à Paris. Rire jaune, c'est parti.
Jaune, c'est la couleur d'être joyeux et du coup, je pense que c'est rire quand on est vraiment très 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 content.
Le jaune, ça me fait penser à la joie, ça veut dire qu'on pleure de rire.
Jaune, c'est la couleur du soleil, c'est du bien, c'est la couleur de l'or, mais en même temps, jaune, c'est la couleur de la lave, du malheur et du grand danger. C'est faut pas rire trop vite et comme on dit, faut pas dire qu'on gagne trop vite, ouais, parce que juste après, il faut avoir une catastrophe.
Le rire jaune, c'est un faux rire un peu.
Le rire jaune, c'est la couleur des dents. Quand on rit, nos dents, après, ils deviennent jaunes.
Peut-être que rire jaune, ça veut dire rire de méchanceté.
C'est jaune puisque comme le soleil quand on a très chaud et bien une personne rigole.
C'est je suis mort de rire, je sors tout mon rire de mon corps, de mon cœur, voilà. La puce à l'oreille, ta 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 ta.
Alors Jean, est-ce qu'on rit à pleines dents quand on rit jaune?
Eh ben non. Ben alors l'idée des dents qui sont jaunes, ça donne bien un peu une idée que c'est pas formidable de rire jaune. Et vraiment, ils ont dit beaucoup de choses de passionnant parce que ils ont évoqué le soleil. Ça, c'est le rire. Bon, effectivement. Et c'est vrai que la couleur de l'or, la couleur du soleil, c'est toujours jaune. Mais en même temps, jaune, c'est celui qui rappelait l'enfer autrefois. Lucifer, c'était le jaune du soufre. Hein, et donc, par conséquent, ça, c'est moins joli. Alors, on a eu aussi une expression qui était être peint en jaune, c'était être trompé par sa femme. Alors, en fait, ces enfants ont bien senti, il y en a un qui a dit un rire de méchanceté. C'est pas vrai, mais c'est un rire mal à l'aise. Un rire de quelqu'un qui est bilieux, qui est pas très content.
C'est un rire pour dissimuler une gêne. Un dépit, quoi. On rit de manière forcée quand on rit jaune.
Oui, c'est ça, on rit jaune. Puis alors, Judas était habillé en jaune. Donc ça, évidemment, dans la connotation religieuse, c'était pas du tout plaisant. Et puis, l'histoire de l'Inquisition aussi, c'est-à-dire quand on a condamné ceux qui étaient susceptibles de ne pas être dans la bonne religion chrétienne, enfin ou catholique, et on les habillait en jaune. Hein, donc l'idée de l'enfer avec le jaune est là. Puis alors, il y a eu une expression en 1640 qui était « il rit jaune comme farine ».
Oui.
Et farine, ça veut dire les gens de la même farine. C'est-à-dire, il dit jaune un peu de manière vicieuse. Comme les autres, c'est pas franc. Alors, l'interprétation la plus courante, c'est quand même aussi l'idée d'avoir un teint jaune, bilieux, et on n'a pas envie de rire. À la limite, vous avez envie de vomir, vous êtes jaune.
Oui, c'est-à-dire que si on rit alors qu'on est bilieux, c'est qu'on rit d'un rire forcé.
Voilà, c'est exactement ça. C'est un rire forcé.
Et puis, il y a aussi cette terrible étoile jaune qu'on donnait aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
Être habillé en jaune à l'époque médiévale, et dans d'autres pays que la France, c'était signaler qu'on était juif, d'où l'étoile, effectivement, qui était jaune. Alors, ça, c'est terrible.
Et puis, c'était aussi la couleur dont on peignait les portes des félons au Moyen-Âge. Les félons, donc les traîtres.
Oui, exactement.
C'était donc la couleur de la trahison.
Oui, c'est ça. Donc, c'est pas une couleur formidable.
Et puis, aujourd'hui, il y a les gilets jaunes.
oui. On voit bien que les couleurs, c'est quand même fonction un peu de l'histoire. Mais rire jaune, pour le moment, c'est quand même pas rire de manière joyeuse. Hein.
Et c'est très difficile de trouver des synonymes à cette expression rire jaune. Il y a plein d'antonymes, en revanche.
Oui.
Dire qu'on rit à gorge déployée, on rit comme un bossu, on rit comme une clé à molette ou alors comme une baleine, on rit à pleines dents.
Alors on rit de manière forcée. Je crois que c'est évidemment c'est un peu long, mais ça c'est typiquement la langue française qui a toujours besoin aussi presque d'une phrase quand les Anglais peuvent le concentrer davantage. Mais ça a quelque chose de presque irremplaçable. Rire jaune, c'est vraiment à apprendre dans notre vocabulaire. C'est pas simplement une expression.
C'est pour ça que cette expression elle est encore très utilisée
aujourd'hui. Très, bien sûr.
En Angleterre, on rit de l'autre côté de son visage ou on rit en creux.
Ça c'est génial.
Rire en creux, c'est vraiment l'équivalent.
Oui.
Il y a aussi une variation de couleur. Au Pays de Galles, on rit bleu.
C'est ça.
Quand en Italie, on rit vert.
Oui, c'est exactement l'illustration d'un rire arc-en-ciel. Bon, il vaut mieux rire de toutes ses dents quand même. Hein.
Il vaut mieux pas rire jaune. Oui. Tant qu'à faire. Eh bien, merci Jean Prouvot, vous avez des belles dents bien blanches. Ni jaune, ni vert, ni bleu. Je sais, quand vous venez dans la puce, vous riez de bon cœur et j'en suis fort aise. Votre actualité est tellement dense que j'encourage les auditeurs qui veulent vous suivre à se rendre directement sur votre site jeanprouvot.com. Je les encourage également à se procurer votre dernier ouvrage, Le secret des mots, édité à la librairie Vuibert. Merci encore Jean d'être venu nous rendre visite dans la puce. À bientôt.
Merci beaucoup Lucie.
Merci à vous Jonel. Est-ce qu'il y a une expression équivalente au Niger? On rit comment au Niger?
Alors, j'étais en train de chercher surtout le rire jaune. Quelle expression, mais je n'arrive pas à trouver exactement.
Donc on rit, point.
Oui.
Pas plus que ça. Merci beaucoup, Jonel. Niamey, Cour commune, votre recueil de slam est édité chez L'Harmattan. Et puis surtout, on vous attend le 31 décembre. Hein.
C'est le 31 décembre
pour passer de 2019 à 2020 au Centre culturel français de Niamey, le CCF Jean Rouge. Ce spectacle. De toute façon, ils ne sont que pauvres.
Exact.
De vive voix avec Véronique Durand, Lily Amado à la réalisation. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.